un plaisir de recevoir dans le forum le directeur général des Canadiens de Montréal, Kent Hughes. Comment ça va?
Ça va bien, Tony, et toi?
Ça va très bien, merci, Kent. Merci de m'honorer avec ta présence aujourd'hui lors de ma deuxième journée à l'animation du forum. Pour moi, c'est un privilège, puis je te remercie beaucoup.
Bienvenue, puis félicitations.
Merci beaucoup, Kent. Alors, on va commencer, Kent. La Coupe Stanley, c'est quand, hein? Je commence pas comme ça, Kent, t'inquiète-toi pas. Mais là où est-ce que je vais commencer, Kent, c'est la transaction avec les Kings, la transaction de Kovacevic, la transaction de Harris. T'as signé à Barry Boulet, le contrat de Slaff, le contrat de Jack Eyre, le contrat à Barron, le contrat à Caden Gooley, l'acquisition de Patrick Laine. Finalement, as-tu pris des vacances?
Non, on déménage.
Ah oui?
On déménage, oui, on déménage à nouveau, ma famille, à nouveau New Hampshire. Alors, on est pas mal occupé. On doit sortir d'ici le 4 de septembre, puis je vais être à Détroit le 3 et 4 pour des réunions des directeurs généraux. Ma femme m'a dit, si je ne connais pas mieux, j'aurais gagé, c'est toi qui l'as cédulé pour ces deux jours.
Mais merci d'avoir pris le temps durant ton déménagement, Kent. Encore une fois, c'est très apprécié. Je vois passer l'effet saillant de Demidov en Russie avec les U23. On voit tout un talent, mais tu nous l'avais déjà dit que c'est tout un talent. J'ai pas vu les matchs au complet, mais j'imagine que toi, les dépisteurs, vous l'avez déjà regardé. C'est quoi les rapports, là? C'est quoi tes observations sur ce que tu es en train de voir de Demidov?
Les rapports toute l'année, je pense que j'avais mentionné la journée ou la soirée du repêchage qu'on avait des rapports même de l'année d'avant que c'était un joueur extrêmement talentueux. Son agilité, c'est moins de bouger est-ouest, de tourner dans le coin sur une petite surface de glace, puis de savoir le jeu qu'il va faire en sortant d'un virage ou de couper son vraiment haut gamme. Alors, je pense que les partisans des Canadiens dans le futur vont vraiment aimer lui voir jouer. Mais on pense aussi que c'est une pièce qui va nous aider à gagner.
Quand tu as fait la transaction pour Patrick Laine, évidemment, on a eu la chance de lui parler et on lui a demandé s'il espérait être de retour comme un joueur de 30 buts. Et voici sa réponse.
Yeah, I mean, I don't want to come back as a 30 goal scorer. You know, I want to come back as a 40-50. You know, I've done that previously and it's not by accident, you know.
Il a ajouté à ça, OK, à un moment donné, il a dit, c'est même si je marque 20, si je peux aider l'équipe à gagner plus de matchs possibles, je suis rendu un âge où est-ce que je veux gagner. Donc, il a parlé vraiment d'être un joueur complet. Mais un joueur qui dit, moi, je veux marquer 40 à 50 buts, j'imagine que ça te fait beaucoup plaisir, mais encore, as-tu peur qu'il se mette de la pression sur les épaules?
Non, écoute... J'imagine que s'il le dit ou le dit pas, j'imagine que dans la tête à Patrick, il pense qu'il est capable de scorer de nouveau 40 buts. C'est pas parce qu'il l'a pas fait dans les années récentes. Moi, j'ai toujours dit, Tony, que les joueurs n'oublient pas comment jouer au hockey. Quelqu'un qui l'a accompli avant est capable de l'accomplir encore. C'est quoi les obstacles qui l'ont arrêté ou l'ont pas permis de le faire les années récentes, est-ce qu'il y a les moyens de surpasser ces obstacles puis retourner au talent qu'il a démontré? Alors, je suis sûr qu'il croit ça. J'imagine que Cole, peut-être qu'il l'a pas dit, mais j'imagine que Cole Caulfield pense qu'il peut scorer 40 aussi. C'est ce qu'on veut. On veut des joueurs confiants qui ont des objectifs aussi.
Kent, évidemment, avant vous, il y a eu d'autres directeurs généraux, il y a eu d'autres entraîneurs, d'autres joueurs, d'autres systèmes de jeu, toutes ces choses-là. Mais le dernier buteur de 50 buts des Canadiens, c'est Stéphane Richer qui l'avait marqué en 89-90. De loin, est-ce que, comme je te dis, je sais que ça n'a rien à voir avec toi, mais penses-tu que c'est le marché? Penses-tu qu'il y a peut-être une réponse à ça? Pourquoi? On sait que marquer 50 buts, c'est pas facile. Il y en a 7-8 dans l'Union nationale qui vont le faire à tous les ans, peut-être. Mais toi, as-tu une réponse pour laquelle ça fait si longtemps qu'un joueur n'a pas marqué 50 buts avec le Canadien?
Écoute, je pense que ça dépend de tellement de choses, comme tu as mentionné, Tony. Ça peut être le système de jeu, ça peut être le talent autour. Des fois, il y a des lignes que les buts viennent de tous les joueurs. Il y en a des lignes ou des équipes où il y a un joueur qui est vraiment le franc-tireur de l'équipe, comme Ovechkin à Washington. Tu vois, tout est sur le power play, a souvent été arrangé pour essayer de l'avoir, de lui donner la rondelle sur son one-timer spot. Alors, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent l'influencer, mais il y a aussi le fait qu'à Montréal, ils n'ont pas eu beaucoup de chances de repêcher si tôt. Si on regarde les grands francs-tireurs, écoute, je ne fais pas mes recherches dans les années passées comme peut-être toi tu fais avant le programme, mais les Stamkos, les Ovechkin, c'est quand même des joueurs qui ont été repêchés très haut, puis dans leur cas, le premier choix overall.
Ouais.
Alors, quand Montréal n'a pas eu la chance d'avoir ce style de joueur.
Avec le directeur général des Canadiens de Montréal, Kent Hughes, vous pouvez vous inscrire sur notre chaîne YouTube et regarder l'entrevue parce que Kent est sur Zoom en ce moment qui nous parle. Kent, je sais que vous êtes en train d'établir une culture à Montréal, puis vous voulez des travaillants, puis vous voulez des gars évidemment qui jouent sur 200 pieds. Mais il y a eu aussi des équipes avec certains joueurs qu'on a donné peut-être un peu plus de liberté. Je pense notamment à Stéphane Richer avec le Canadien quand il a marqué 2 fois 50 buts. J'imagine que Brett Hull avait droit à certaines libertés. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ce genre de philosophie-là, peut-être de parler avec ton entraîneur pour dire un joueur en particulier, pour qu'il soit vraiment efficace, peut-être on doit lui donner peut-être un peu plus de liberté ou moins de responsabilités défensives que d'autres, même en respectant ta culture. C'est-tu une discussion qui pourrait avoir lieu?
C'est plus la domaine du coach Tony, même dans le temps de Stéphane Richer ou les autres joueurs, Ovechkin, tout ça. C'est le coach qui gère la chambre. C'est lui qui est dans la chambre à chaque jour, qui voit les joueurs, est en arrière du banc avec eux dans les matchs. C'est lui qui va savoir. Au fin de la journée, sa responsabilité, c'est d'arriver pour mettre la meilleure équipe sur la glace, de performer au maximum. Puis il y a des décisions qu'il doit prendre. Il y a tellement de facteurs à gérer. Puis c'est pour ça que j'avais dit avant d'avoir embauché Martin que parmi les critères qu'on cherchait, c'était une intelligence, quelqu'un qui était capable d'analyser les choses, parce que je pense que c'est ça que tu as besoin d'un leader.
Je suis vraiment excité, Ken, par l'arrivée de Lainé parce que moi, dans ma jeunesse, j'ai grandi. J'ai toujours aimé les joueurs d'attaque dont j'ai une faiblesse pour eux autres, là, je vais te le dire, là, les joueurs d'attaque, les joueurs qui marquent des buts. Mais tu l'as jamais dit ouvertement, mais de l'extérieur, on a eu l'impression que dans les dernières 2 ans, il y avait peut-être une échelle salariale à respecter. C'est pas toi qui as donné le contrat à Nick Suzuki, évidemment, c'était Marc Bergevin avant toi. Mais depuis, Cole Caulfield a eu un contrat avec un salaire inférieur que Suzuki et Slafkovský, tu viens de renouveler pour un contrat de 8 ans, un contrat inférieur de Suzuki. Donc moi, j'ai eu l'impression qu'il y avait une échelle salariale que tu as respectée, que ton capitaine aurait été le joueur le plus payé. Là, tu fais l'acquisition de Patrick Laine, évidemment, c'est pas toi qui lui as donné le contrat. Il lui reste 2 ans à 8,7 millions de dollars. Ma question pour toi est, c'est quand vous avez parlé de la possibilité de faire cette transaction-là, est-ce que c'est quelque chose qui est rentré en ligne de compte? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a fait peur un peu que tu reçois un
Non.
joueur qui a cette salaire-là? Non?
Je pense que c'est Stu Cowan qui me l'avait demandé aux stations médiatiques après l'échange. Puis, comme je l'avais répondu au moment, c'est que c'est pas nous qui négocions cette contrat. C'est pas nous qui l'a donné à Patrick Laine. Il y a 2 ans qu'il reste sous le contrat. C'était le joueur qui était disponible, quelqu'un qu'on était en mesure d'aller chercher pour récompenser notre équipe, notre chambre, pour leur donner encore une meilleure chance de compétitionner dans la saison. Puis c'est vraiment de leur récompenser, Tony, pour L'effort qu'ils ont mis. C'est facile de. Quand tu tombes trois matchs en quatre soirs, puis tu es déjà sorti des séries, si pas mathématiquement, mais en réalité, c'est pas facile de continuer à donner ton maximum. Puis c'est quelque chose qu'on croit que nos joueurs ont fait, notre chambre a fait, notre équipe a fait toute l'année. Pour la plupart, c'est sûr que ça n'a pas été 82 matchs extraordinaires, mais l'effort pour la plupart est toujours là. Puis on voulait leur donner de quoi pour leur continuer à avancer comme équipe.
Serge
C'est plus
Savard,
important qu'autre
ouais. Serge
chose.
Savard a honoré l'équipe des années 70, il y a un couple de semaines, à son club de golf, Le Mirage. Il a parlé d'une inquiétude qu'il a vis-à-vis l'équipe. Je te fais jouer ça.
J'ai une petite crainte avec Canadien. Ce que je regarde, c'est que au fil des années, il va falloir être bon, être gros et gros.
Ouais.
C'est ce que Floride était cette année.
Ouais.
Puis ça, je pense que on s'enligne peut-être vers ça, mais pour l'instant, peut-être que le gabarit est un peu petit. Là.
Fait qu'avec Slavkovski, c'est quand même.
Ça donne une dimension différente.
Il faut souligner que ce clip-là était avant l'acquisition de Patrick Laine, qui fait 6 pieds 5. Mais Kent, je regarde le Canadien, puis je comprends que Suzuki, il est solide. Hein? Il est gros, il est solide, mais Suzuki, 5 pieds 11, Nook, 5 pieds 11, Caulfield, peut-être 5 pieds 7, Lane Hudson, peut-être 5 pieds 9, Harvey Pinard, peut-être 5 pieds 9, Gallagher, peut-être 5 pieds 9. Moi, si j'ai un certain crainte, dont j'applaudis l'arrivée de Laine, pour toi, des petits joueurs, quand tu en as beaucoup comme ça, est-ce que tu penses que tu peux gagner avec de petits joueurs?
Oui, on croit qu'on peut gagner avec des petits joueurs, sinon on n'aura pas fourni à Cole un contrat de 8 ans. Est-ce que je crois qu'on peut gagner avec 12 joueurs d'avant au même grandeur que Cole Caulfield? Non. Encore, je pense que c'est une question qui m'a été demandée. Si, je pense même l'année qu'on a repêché Slaf après le repêchage, quelqu'un m'avait demandé si on croyait vraiment dans la grandeur des joueurs vu qu'on avait pris le premier choix overall. Puis j'ai dit, écoute, je ne suis pas inquiète des petits joueurs. On voit aujourd'hui qu'on a un des meilleurs dans l'histoire en arrière de notre banc, puis je le prendrais s'il était dans son prime sur notre équipe n'importe quelle journée. Mais on sait qu'il y a une balance, puis on est en train de construire une équipe. Ça se fait pas dans un mois, dans un an, mais c'est sûrement, on est 2 ans et demi déjà, puis on n'est pas rendu où on veut être. Je pense que les débuts de notre approche étaient plus, je sais pas comment dire, asset accumulation.
Ouais.
Puis
Ouais,
là, à un moment
mais
donné, tu commences à.
quatre, moi non plus, je
Oui.
sais pas comment le dire, donc inquiète-toi pas.
Accumulation d'atouts. Alors, je pense que à un moment donné, tu transitionnes, puis tu commences à penser qu'est-ce qu'on a besoin pour construire une équipe. Mais c'est une autre phase, puis ça arrive pas tout dans une soirée. Alors, c'est tous les facteurs. C'est pas juste ça. Puis c'est pas juste la grandeur, dans mon avis. La lourdesse,
Oui, la grosseur, la grosseur.
la grosseur, puis la compétition. À quel point qu'un joueur est compétitif. On voit un petit joueur comme Logan Stankoven à Dallas. Je pense qu'il y a quoi, 5 pieds 8, maximum 5 pieds 9, mais je pense que il dépasse 50% de batailles gagnées dans les coins. Alors,
Oui,
c'est tous ces facteurs.
Ma prochaine question, là, j'imagine que tu vas dire, mais je ne suis pas le coach, il faudrait demander au coach. Donc moi, Kent, je vais essayer d'être créatif de ma façon de poser la question, OK? Moi, j'aimerais parler à Kent Hughes, le partisan des Canadiens de Montréal, et pas le DG pour une petite minute, OK? On va essayer. Je regarde Laine, droitier, il aime ça se positionner du côté gauche sur l'avantage numérique. Cole Caulfield, exactement la même chose. Toi, comme partisan, penses-tu que les deux peuvent faire partie de la première unité de l'avantage numérique? Et si oui, comment tu vois ton première unité d'avantage numérique? Je demande aux partisans.
Oui, mais je pense que c'est mieux de demander aux partisans, Tony.
Merci pour la quote de la semaine, Kent.
Oui, je vais laisser ça au coach et joueurs de se déterminer.
Oh, wow. OK. Lane Hudson, je veux te parler de lui. Okay. Moi, je suis de l'avis que j'ai tort ou raison. Moi, je suis de l'avis qu'il y a des joueurs qui vont mieux jouer dans la Ligue nationale qu'ils vont jouer dans la Ligue américaine. Puis je sais pas pourquoi, je pense que Lane Hudson serait un de ces gars-là parce que je pense la façon dont il voit la game, je ne sais pas s'il y en a vraiment beaucoup dans la Ligue américaine qui vont l'avoir comme lui. Donc, je ne sais pas si ça fait du sens. Je ne sais pas, même pas si j'ai raison. Est-ce que tu vois les choses de la même côté? Ou non?
Je suis plus de... Mon approche, notre approche, c'est plus, Tony, de... Le plus de temps qu'on a pour évaluer des joueurs, le mieux qu'on est. Je l'ai vu jouer souvent depuis 4 ans, 2 ans avec l'équipe américaine, 2 ans à l'Université de Boston. À chaque niveau, se remarque à quel point qu'un joueur est capable de faire l'ajustement. D'avoir l'idée, vu qu'il y a un sens d'hockey très haut qui devrait être mieux dans la Ligue nationale que dans la Ligue américaine, j'ai entendu ça comme idée souvent. Je ne suis pas en désaccord, mais il y a tellement d'autres facteurs. Alors, on a vu 2 bons games de Lane contre Détroit, puis on va continuer à le suivre puis prendre des décisions en fonction de qu'est-ce qu'on croit dans le bien-être de Lane Hudson.
Pierre McGuire a dit à mon podcast que lui, il voyait un système de 11 attaquants à 7 défenseurs pour ne pas exposer Hudson à beaucoup de minutes et pour faire de lui comme un spécialiste de l'avantage numérique au début, si jamais il débute la saison à Montréal. Ceci étant dit, faut être honnête, là, combien d'équipes jouent en 11 attaquants puis 7 défenseurs? On dit que les coachs n'aiment pas ça, les joueurs n'aiment pas ça parce que ça enlève un peu de rythme. Mais je comprends la logique. Tu pourrais diminuer les minutes de Matheson, tu pourrais donner des minutes à Lane et à d'autres aussi, et tu pourrais, disons, jouer d'autres attaquants un peu plus. Est-ce que c'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis des années avec le Canadien très souvent? Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu penses qu'on pourrait voir plus souvent?
Encore, c'est une question plus pour les coachs, mais comme gérant, je le vois d'une certaine manière. Je ne veux pas nécessairement cacher Lane Hudson, puis faire de lui un spécialiste d'avantage numérique. On veut faire de Lane Hudson le meilleur défenseur qu'il est capable de devenir. Puis si c'est en le faisant jouer moins de minutes, mais dans la Ligue nationale, ou peut-être pas toutes les games, mais on va le faire si on détermine que non, il a besoin d'améliorer certains aspects de son jeu, puis il sera mieux servi d'être dans la Ligue américaine, mais on va l'envoyer dans la Ligue américaine. Alors, mais on ne gardera pas dans la Ligue nationale juste pour faire de lui un spécialiste du power play.
En conversation avec le directeur général des Canadiens de Montréal, Kent Hughes, vous pouvez nous regarder sur la chaîne YouTube sur BPM Sport. On parle souvent, Kent, du top 6. C'est facile avec le Canadien, avec Suzuki, Caulfield, Slavkovski, Kirby Dach, Patrick Laine. Mais le 6e, on sort un paquet de noms. Toi, personnellement, puis je sais que ça va dépendre du camp, mais y a-t-il un joueur en particulier que tu aimerais voir gagner ce poste-là? Que tu aimerais, pas pour toi, mais pour lui.
Tony, t'aurais dû inviter Marty sur le programme.
Ah oui, je sais. Je sais que je pose beaucoup de questions pour le coach aussi. Là.
Encore, écoute, je pense qu'avec les joueurs qu'on a présentement, il y a une certaine flexibilité pour nos coachs dans la manière qu'ils vont construire les lignes. Vu que il y en a plusieurs qui peuvent jouer au centre puis à l'aile, ça leur donne la flexibilité. Puis on a vu un gars comme Kirby qui a joué à l'aile au début sa première année, mais qui a vraiment vraiment commencé à venir dans son jeu quand il a été remis au centre. J'imagine qu'il va commencer avec la ligne à Slavkovski, Suzuki et Caulfield, vu qu'ils ont bien terminé la saison. Mais encore, si Martin voit quelque chose, et les coachs, ils voient quelque chose dans le camp d'entraînement, aussi que les matchs au concours qui leur font de changer les lignes, mais ça, c'est le domaine du coach.
OK. Là, j'ai une question pour le directeur général Kent Hughes. Là, tu m'as pompé. Askarov... oui, vas-y.
Non, c'est pas grave. Vas-y. Je vais le diriger à Jeff Gorton.
Askarov a été échangé aux Sharks. Est-ce que tu étais intéressé?
Jeff Gorton, je peux vous dire, va me dire, comme il a déjà fait, ça fait 2 ans, aux périodes des dates limites, que la Ligue aime pas qu'on parle des joueurs des autres équipes.
This guy's the best, hein?
Hey, honnêtement, je pense dans le temps, j'étais demandé si c'était avant la date limite, mais quelqu'un m'a demandé si je devrais considérer, en parlant de Ben Sherratt dans le temps, est-ce qu'on devrait au moins l'échanger plus vite pour ne pas risquer qu'il se fait blesser?
Ouais.
Puis j'ai dit, écoute, il n'y a pas un facteur dans les décisions, il y en a plusieurs, mais on n'est pas la seule équipe. Dallas avait Klingberg dans le temps qui était dans les rumeurs d'échange, puis il n'a pas été échangé. Alors, j'avais dit qu'on n'était pas la seule équipe, puis j'étais averti après qu'on ne parle pas des joueurs des autres équipes.
Ouais, je comprends. Il nous reste quelques minutes, je te remercie beaucoup pour ton temps, mais je vais te demander ça. Est-ce que, de façon réaliste, là, est-ce que tu penses que tu as fini ton travail pendant quelques mois? Je sais que tu vas toujours essayer d'améliorer ton équipe, mais l'équipe qui est là, selon toi, si tu me donnes un pourcentage sur 100, sans être les plus grandes chances, évidemment, est-ce que c'est cette équipe-là qui va débuter la saison avec le Canadien, l'équipe que tu as là? C'est quoi les... où tu penses...
Tu demandes s'il y a des possibilités d'avoir un autre échange?
Oui. T'es à l'aise?
Je dirais jamais non.
Ouais.
J'aurais pas pu vous dire que au mois de juillet, que l'échange avec Laine se fera aussi. Je crois toujours d'être flexible ou adaptable, d'avoir des discussions avec mes peers,
ouais,
les autres personnes dans la ligue. On ne sait jamais quand il y a quelque chose, un joueur qui tout au coup on découvre et est disponible sur le marché, où il y a quelqu'un, il y a une blessure, quelqu'un a besoin de quelque chose, puis on voit qu'il y a un échange qui pourrait servir nos intérêts. Mais je peux vous dire que dans le moment, il n'y a rien. On n'a rien dans nos têtes au niveau d'un échange qu'on vise.
OK. Moi, je vais te sortir. Si le Canadien va faire les séries cette année, je pourrais te sortir 100 choses, OK? Mais si le Canadien fait les séries cette année, moi, je vais te donner 3 choses, OK? L'avantage numérique doit être dans le top 15. L'équipe doit être en santé. Et ça va prendre les meilleures saisons dans la Ligue nationale de vos gardiens de but. Moi, je vous donne mes top 3. J'aimerais que vous me donniez une réponse à ça sans me donner une de ces réponses-là. Donc, si le Canadien va faire les séries, est-ce que tu peux me donner quelque chose à part ces 3 choses-là?
Je dirais que nos équipes, Jeff, il dit ça souvent aussi, que nos équipes d'unités spéciaux combinées vont avoir une valeur de 100 ou plus.
OK. Kent, j'adore la reconstruction, OK? Puis je suis en faveur, je t'avais dit, je veux la reconstruction depuis 2009. Puis je comprends de ne pas faire les séries au cours des dernières années ont été une conséquence de la reconstruction. Cette année, ne pas faire les séries, si vous ne faites pas les séries, est-ce que c'est un échec? Parce que moi, je considère que dans les dernières années, ce n'était pas un échec. C'était une conséquence de la reconstruction. T'en es rendu où avec la reconstruction? Puis si tu ne fais pas les séries cette année, est-ce que ça serait différent? Est-ce que ça serait un échec, à ton avis?
Non, on a parlé d'être dans le mix, Tony. Ça veut pas, on n'a pas fixé un objectif qu'on faut absolument faire les séries. On a fixé un objectif de continuer les objectifs, au moins du côté de l'équipe de gestion, était d'améliorer l'offensif. C'est sûr qu'on doit améliorer tout partout. On doit améliorer le défensif aussi. Mais on a des jeunes joueurs dans le système. Vont avoir un bon avenir, mais même s'ils ne sont pas tous arrivés à Montréal encore, on savait qu'on fallait améliorer l'offensif. C'est vraiment des choses qu'on a discutées à notre session médiatique au fin de l'année. On est très content du repêchage. On est content d'avoir ajouté Patrick Laine. Mais on est loin d'avoir terminé nos travaux. On a placé quoi? Cinquième cinquième avant-dernière?
Oui, oui. Deux autres, Kent, puis on a Denis Gauthier d'RDS qui s'en vient évidemment pour commenter, un collaborateur tous les mardis et tous les jeudis. L'assistant coach, Alex Burrows, on sait qu'il n'est plus assistant coach, mais il va rester à l'intérieur de l'organisation. Est-ce qu'une décision a été prise si vous allez ajouter un autre assistant coach?
Pas pour le moment.
Est-ce que je peux présumer que Martin va prendre les responsabilités de l'avantage numérique? Est-ce que ça s'est décidé ou ça va aller à un de vos autres assistants?
Encore des choses qu'on va discuter et la décision ultime va être à Martin puis son staff.
Kent, avant de te quitter, j'aimerais que les auditeurs et les auditrices savent quelque chose. Bon, je vais répéter l'histoire vite. Là. Il y a environ une quinzaine d'années, je ne sais même pas si j'en ai parlé à Kent depuis, mais il y a environ une quinzaine d'années, je travaillais à la radio anglophone, puis j'avais reçu un courriel d'un monsieur qui s'appelle Frank, et il m'a dit, Tony, il dit, ma femme va avoir 30 ans bientôt, malheureusement, elle a un cancer du cerveau, et son temps avec nous va être limité. Son joueur favori, c'est Vincent Lecavalier, puis je pensais que si Vincent pouvait la visiter pour sa fête, ça serait quelque chose d'incroyable avant qu'elle nous quitte. Moi, j'étais jeune dans le métier, je savais pas quoi faire, là. J'avais entendu, j'ai fait mes recherches, j'ai vu que Kent Hughes était l'agent de Vincent Lecavalier. Donc, j'ai réussi à rentrer en communication avec Kent. Moi, Kent, je le connaissais pas. Je lui ai parlé au téléphone, je lui ai expliqué ça. Il m'a dit, envoie-moi le courriel, puis je vais voir qu'est-ce que je peux faire de ça dans mes mains. Quelques semaines plus tard, je reçois un courriel. Le monsieur me dit, il dit, Tony, j'aimerais te dire que malheureusement, Vincent pouvait pas venir parce qu'il était en camp d'entraînement avec le Lightning de Tampa Bay, mais ce monsieur-là a reçu un appel d'Yvon Lecavalier, le père de Vincent, et dirait, est-ce que je pourrais passer prendre un café avec vous? Il est allé là, il a donné un chandail de Vincent Lecavalier, il l'a mis sur sa femme, Maggie, pour son anniversaire. Il a appelé Vincent au téléphone. Vincent a dit bonjour, puis a souhaité très joyeux anniversaire, puis ils ont eu une belle conversation. Elle était très émue. Elle ne pouvait pas parler à ce moment-là. Il m'a dit, Tony, je veux que tu saches que ma femme est décédée quelques jours plus tard, mais je sais qu'elle est décédée contente. Elle était vraiment contente de cette conversation-là avec M. Lecavalier, le chandail qu'elle a reçu. Parler à Vincent au téléphone, madame et messieurs, c'est ça. Kent Hughes, le directeur général des Canadiens, la personne. Kent, je te remercie encore une fois pour ça. Ça démontre toute ta classe, puis les Canadiens sont dans bonnes mains, pas seulement avec toi comme directeur général, mais évidemment une bonne personne comme toi. Merci, Kent.
Merci beaucoup, Tony, puis continue la bonne chance avec ta programme.
Merci, j'apprécie. Tu sais, Kent, je me suis dit que si PJ Stock peut faire carrière en français, moi, je peux le faire aussi.
Je peux vous dire que ton français est meilleur que celle de PJ, sans aucun doute.
Merci, Kent. Salut, on se parle bientôt.
Salut.
Hey,
bye-bye.
Je veux la coupe Stanley.
Oui, moi aussi.
All right, let's go. Je veux la coupe. Merci, Kent Hughes, directeur général des Canadiens.